Le cours de latin liturgique de Bernadette Lécureux, Paris, édition septembre 2011, Una Voce, page 40, leçon 15. L'hymne des processions du Saint-Sacrement qui va servir à notre étude, ici c'est le Pange Lingua. Pange Lingua Gloriosi, Corporis Mysterium, Sanguinis Quae Preciosi, Quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Là, nous sommes dans du latin complexe, qui pourtant est une hymne chantée par le peuple. Et donc, lorsqu'on est français, on saisit beaucoup plus de mots. Mais ici, nous sommes dans du latin chrétien assez orné. On a vu que c'était l'office de saint Thomas d'Aquin. Eh bien, ici, il a voulu suivre un peu l'originalité latine de l'ordre des mots. Il a fait des vers, voyez, mysterium, pretium, gentium. Mais surtout, il y a cette nécessité du latin qui est de connaître la fonction grammaticale à partir de la fin des mots, de la désinence, parce que l'ordre des mots ne suit pas l'ordre rationnel du français contemporain et même moins contemporain, sujet, verbe, complément. Dans le latin, on a très souvent sujet, complément et verbe à la fin. Les compléments du nom précèdent le nom qu'ils vont expliciter. Alors, dans une analyse d'un texte aussi compliqué, il faut toujours partir du verbe pour savoir s'il y a un sujet exprimé. Le verbe nous permet en général d'avoir le nombre, parfois le genre féminin ou masculin lorsque c'est du passé composé, mais au moins il nous permet d'avoir le nombre, donc de repérer un sujet au pluriel ou en singulier. Ensuite, quand on a le verbe et qu'on a le sujet, on essaye de chercher des compléments. Voilà la manière de faire une version. Le thème est fort en thème. Je vous prends le français et vous le traduisez en latin. C'est hors de propos. Ici, grâce à la méthode de Madame Bernadette Lécureux, nous avons une explicitation de chaque mot. Donc on va l'utiliser pour tricher. Mais ensuite, on prendra la méthode que je vous ai indiquée, verbe, sujet, complément. Remarquons, nous dit-elle page 40 en haut, que la souplesse de l'ordre des mots de la phrase latine facilite grandement le rythme et la rime des poèmes. Si nous rétablissons dans cette strophe l'ordre logique du français, nous obtenons, alors là, elle nous donne la solution. Pange lingua mysterium corporis, gloriosi sanguinisque preciosi, quem rex gentium, fructus generosi ventris, effudit in precium mundi. Ce qui donne en traduction littérale, célèbre ma langue le mystère du corps glorieux et du sang précieux que le roi des nations, fruit de nobles entrailles. Alors là, ce n'est pas une traduction littérale, je suis désolé. Fruit d'un ventre généreux. De nobles entrailles, c'est une traduction enjolivée. Aversé pour le prix du monde. Ça, c'est vrai. Alors maintenant, nous allons faire l'analyse grammaticale. Pange, c'est l'impératif de pango, pangis, pangere, troisième déclinaison. Conjugaison. La première conjugaison, c'est les mots en are. La deuxième conjugaison, c'est les mots en eo, es et emus etis ent ere. La troisième conjugaison, c'est les mots en o, is, it, imus, itis, unt, ere. La troisième déclinaison, conjugaison bis, c'est les mots en eo, is, it, imus, itis, eunt, et quand même ere. Et la quatrième conjugaison, c'est les mots en io, is, pardon, c'est les mots, la troisième conjugaison bis, c'est io, mais ça donne ere quand même. Tandis que la quatrième conjugaison est totalement en iré. Voilà. Ici, vous avez, me semble-t-il, une très bonne grammaire. Pange, c'est pango, pangis, pangere. Comment on conjugue pango, pangis, pangit, pangimus, pangitis, pangunt. Et ça, c'est célébrer. La différence avec les verbes en iré, c'est que ça, justement, on n'a pas en io. Voyez. La différence avec les verbes en aré, c'est que on a pango, mais on n'a pas pangas. Pangat comme pangamus, pangatis, pangat. Dans le tableau complet magique, comme je dis, vous avez la première colonne, ce sont les cas. En latin, ce sont les fonctions grammaticales. Nominatif, c'est le nom utilisé comme sujet ou attribut du sujet. Le vocatif, c'est l'apostrophe. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Le génitif, c'est le complément du nom. Le datif, c'est le complément d'objet direct ou le complément d'objet second ou le complément d'attribution. Et l'ablatif, c'est le complément circonstanciel. Ensuite, vous avez les personnes. Je, tu, il, nous, vous, il. Ensuite, vous avez les terminaisons qui correspondent au français, d'ailleurs. Sauf O, hein, il n'y a pas de O. Mais M non plus. S, par contre, tu aimes, se termine par un S. Ça vient du latin. T, c'est la troisième personne. Mus, c'est la première personne du pluriel. Tis, c'est la deuxième personne du pluriel. Et NT, qu'on retrouve parfaitement en français. C'est là qu'on voit que le français est une langue très latine. La troisième personne du pluriel se détermine par NT. Il mange, il lise, enfin c'est toujours NT. ENT, mais enfin c'est NT. Alors, donc nous avons ici Pange, et Pange, c'est l'impératif. Donc, c'est exceptionnel par rapport à la conjugaison ordinaire. Et ça donne pange et, je pense, pangite. Ici, c'est célébrer, répandre. Voyez. Lingua, vocatif de lingua, lingue, féminin. Remarquons une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire en latin d'exprimer l'adjectif possessif, parce que lui, il veut absolument traduire « célèbre, ô ma langue ». Bon, s'il veut, mais c'est « célèbre, langue, langue de tous hein, ». Bon. Ô ma langue, ô langue. Oui. Lingua, c'est rare d'interpeller un être inanimé. Une langue, ici, c'est l'organe lui-même, qui n'a pas de personnalité. Elle permet de parler, mais elle ne parle pas elle-même. Alors. Pange lingua gloriosi corporis. Ah. Ici, on va, comme on a déjà un peu de réponse, on va prendre l'analyse et ensuite on prendra la méthode classique. Ici, ils mettent gloriosi corporis mysterium en un tout. Elle utilise le vocabulaire tout de suite, mysterium, après lingua, dans la page 40 en haut. Pourquoi ? Parce que, en effet, c'est le substantif, c'est le nom qu'on célèbre. Pange mysterium, célèbre le mystère. Et ici, gloriosi corporis, on voit la particularité du latin. Ça ne se termine pas de la même façon, et pourtant c'est la même fonction grammaticale. Complément du nom. Corpus, en latin, veut dire le corps, a donné corps en français, bien sûr, et c'est du neutre, ni féminin ni masculin. Corpus, et le neutre a un sujet, une apostrophe, et un complément d'objet direct identique. Les trois premiers cas sont identiques. Corpus, corpus, corpus. Ensuite, corporis, c'est le génitif, complément du nom. Donc ici, célèbre aux langues le mystère du corps. Corporis mysterium. Et ici, gloriosi, ça vient d'où? Eh bien, ils vous le disent. Gloriosus, gloriosa, gloriosum, c'est un adjectif qualificatif. Ce qui est intéressant dans les adjectifs qualificatifs, c'est qu'ils sont de deux sortes. Les uns se terminent selon la déclinaison de rosa, la première, ou de dominus domini, la deuxième, ou de templum templi, le neutre, la deuxième aussi, au neutre. Ces adjectifs sont appelés des adjectifs de première classe, car ils sont simples. Ils sont sur la première et deuxième déclinaison suivant le féminin, le masculin ou le neutre. Eh bien, ici, c'est bien un adjectif de première classe. Les adjectifs de deuxième classe se déclinent sur la troisième déclinaison. Ici, vous en avez un exemple dans le tableau général avec civis. Civis, civis, civem. Civis, civi, civé. Cives, cives, cives. Civium, civibus, civibus. Ou alors, consul, consul, consulem. Consulis, consuli, consule. Consules, consules, consules. Consulum, consulibus, consulibus. On voit bien que ces terminaisons nous donnent des sens différents. Sujet, apostrophe, complément d'objet direct. Génitif, complément du nom, complément d'objet second et complément circonstanciel. Ici, gloriosi vient de dominus et en fait ici même de templum. Gloriosus, gloriosa, gloriosum. Au féminin, c'est gloriosa rosa, une rose glorieuse. « Oh, rose glorieuse, gloriosa rosa, je vois une rose glorieuse, gloriosam rosam, je vois la beauté de la rose glorieuse, gloriosé rosé, A-E ça se prononce E en latin classique, en latin reconstitué c'est « Kikidi le monsieur », donc c'est au lieu de « Chechidi », ils ont transformé pour qu'on puisse plus prononcer le latin liturgique, en fait, c'est de la pure méchanceté, voilà. Sous prétexte d'études de langue et de savoir comment on prononçait le latin il y a 2000 ans.
C'est le latin de Cicéron.
Voilà, oui, ou Quiquéron. Hein. Au moins qu'il ait le courage de dire c'est le latin de Quiquéron, hein, qu'on rigole un peu. Voilà. Et donc, je donne de l'eau à la glorieuse rose. Gloriosé, rosé, comme le génitif. Ah, déjà, le sens dans la phrase et l'ordre des mots nous indiquera la différence entre un complément du nom et un datif. À qui, pour qui, contre qui, n'est-ce pas? Je donne de l'eau à la glorieuse rose. Et j'orne l'autel avec une rose glorieuse. Rosa, gloriosa. Mais ça ressemble au nominatif, ça ressemble au vocatif. Donc le sens de la phrase, l'ordre des mots nous indiquera le pourquoi. Au pluriel, eh bien on se retrouve avec deux génitifs, Mais non, c'est du nominatif pluriel. Rosé gloriosé ici devient les roses glorieuses ornent l'autel. Gloriosé rosé. Ou alors, ô roses glorieuses, vous ornez l'autel. Gloriosé rosé. Je vois des roses glorieuses. Gloriosas rosas. La beauté des roses glorieuses, gloriosarum rosarum. Je donne de l'eau aux roses glorieuses, gloriosis rosis. Et j'orne l'autel avec des roses glorieuses, gloriosis rosis. Je pourrais vous faire la même chose avec dominus domine dominum, domini domino domino, domini domini, comme le génitif, mais c'est du pluriel. Dominos, dominorum, dominis, dominis. D'ailleurs, ici, c'est la deuxième déclinaison. Mais templum, c'est aussi la deuxième déclinaison. À quoi on le reconnaît ? Au génitif en i. Domini, templi. Tandis que rose, c'est rosé. Templum, templum, templum. Templi, templo, templo. Comme domino. Hein ? Mais au pluriel, petite confusion possible avec la première déclinaison. Templa, templa, templa. Mais c'est du neutre pluriel. Templorum, templis, templis. On remarquera que le génitif pluriel est très reconnaissable. Arum, orum, orum. Ici, quand on voit pange lingua gloriosi corporis, gloriosi pourrait être, c'est glorieux, mais gloriosi peut être à la fois du génitif, singulier masculin, comme domini, ça peut être du génitif singulier neutre, comme templi, et ça peut être du nominatif pluriel, comme domini, ou du vocatif pluriel masculin, comme domini. Mais un adjectif qualificatif prend le cas, le genre, du nom qu'il qualifie. Ici donc, malgré le fait que corpori soit de la troisième déclinaison, gloriosi ici est un génitif neutre singulier. Le corps glorieux. Désinence différente, gloriosi et corporis, mais pourtant, totale unité. Génitif neutre singulier pour gloriosi, génitif neutre singulier pour corporis. Mysterium ici est donc complété et qualifié par gloriosi corporis. Sanguinis quae preciosi nous donne le même exemple, sauf que sanguis sanguinis, c'est du masculin. Sanguis sanguis sanguinem. Sanguinis, sanguini, sanguiné. Sanguines, sanguines, sanguines. Sanguinium, sanguinibus, sanguinibus. Et preciosi, c'est preciosus, preciosa, preciosum, première classe. On a exactement le même phénomène, sauf que preciosi est un génitif masculin singulier adjectif qualificatif de sanguis. Génitif masculin singulier. Mais alors, quel est le nom qui est complété par sanguinis preciosi? Mais c'est à nouveau mysterium. Oui. Célèbre, ô ma langue, le mystère du glorieux corps et du précieux sang.
C'est-à-dire, dans la construction de la phrase, si on nommait les vers,
oui.
Mysterium aurait pu se trouver après preciosi.
Oui, tout à fait. Et encore, dans un ordre des mots purement latin. Dans un ordre français, vous avez l'effort qui a été fait par Madame Lécurieux, c'est pange lingua. L'ordre français, c'est le mystère du corps glorieux et du sang précieux. Donc c'est mysterium. Corporis gloriosi, sanguinis quae preciosi. Ici, on n'utilise pas la conjonction de coordination « et », mais « quae ». Que au sens de et, mais où est donc ornicar, c'est après le collé à la fin du mot. C'est une formule, c'est une forme, comment dire, du latin. Il y a un terme particulier, c'est une figure de style du latin. Le que à la fin d'un mot, ça veut dire et. Donc, le mystère du corps glorieux et du sang précieux. Il faut le savoir. D'ailleurs, il l'explique. Page 40 au milieu, pour l'explicitation du mot sanguis, sanguinis masculin, le sang. Le coué à coller à ce mot est une conjonction de coordination, l'équivalent exact de et, placé, quand il est placé avant le mot. Et.
Il y a ça dans le credo, je crois. Il y a une...
Oui, filioque procedit.
Qui procède du père et du fils.
Voilà. C'est une formule de style latine qui a été l'occasion de grandes querelles entre les orientaux et les occidentaux. Le filioque. Quem in mundi precium fructus ventri generosi rex effundit gentium. Quem. Ici, c'est le pronom relatif. Un pronom relatif en latin se décline. Si vous connaissez un tout petit peu le latin, vous devinez que quem, c'est sanguinem, c'est comme dominum, comme civem, comme consulem, c'est l'accusatif. Or, un pronom relatif prend la fonction grammaticale qu'il a dans la phrase. Et célèbre le mystère du sang du corps glorieux et du sang précieux que donc qui a été effudit, qui a été versé. Et donc, si vous voulez, le mystère du sang précieux. Alors ici, quem, ici, ne prend que sanguis et pas mysterium. Parce que sinon, quem serait au neutre. Son antécédent étant au neutre, mysterium, c'est du neutre. Donc ici, d'ailleurs, le sang qui a été... répandu, donc c'est le sang, effudit, effusion. Quem effudit, qui a été répandu. Maintenant qu'on a le verbe effudit, qui est le verbe effudo, effudis, effudere, versé au passé simple, on essaye de chercher le sujet. In, c'est pas un sujet. Mundi, les mondes ont versé le sang, non. Pretium, le prix à verser, le prix verse, non. Fructus, fructus peut-être. Ventris, non, c'est venter, ventris, c'est du génitif. Generosi, ça doit être du génitif aussi. Rex, ça c'est du nominatif. Et fundit, gentium, c'est du génitif pluriel. Donc on a deux nominatifs ici, fructus et rex. Donc l'un est le sujet et l'autre apposé au sujet, explicite le sujet. Napoléon, empereur des Français, c'est posé. Et ogre de l'armée, de la jeunesse française, et qui a versé le sang de centaines de milliers de jeunes hommes pour sa gloire. Et Rex gentium, le roi des nations. Gens, gentis, c'est la race, la nation. Gens, gens, gentem. Gentis, genti, gente. Gentes, gentes, gentes. Gentium, gentibus, gentibus. Oui. Donc ici, le roi, le sang précieux que le roi des nations a versé, in mundi, mundus, mundi masculin c'est le monde, In plus accusatif, c'est une idée de mouvement. In plus ablatif, c'est complément circonstanciel de lieu qui ne bouge pas. In precium, precium, preci, neutre. Ici, c'est accusatif neutre singulier. Pour le prix. In precium, pour le prix du monde, pour le rachat du monde. In precium mundi. In plus accusatif, precium. Mundi, génitif, complément du nom, precium. Que le roi des nations a versé pour le prix du monde. Et le rex est explicité par fructus ventris generosi.
Entre gens, gentis et nation, nationis, il y a une différence. Natio, c'est la nation.
C'est plus politique. Gens, c'est l'origine.
Oui, l'homen gentium, par exemple.
Oui. Fructus, le fruit. Ici, c'est la quatrième déclinaison. Fructus, fructus, génitif en us.
Fructus, fructus.
Un peu compliqué par rapport à dominus, qui est du nominatif, du sujet. Fructus, c'est sujet, et fructus, c'est aussi complément du nom.
C'est sur manus. C'est sur manus.
Non, c'est sur manus, oui. Manus.
Oui, c'est ça, oui. Fructus,
fructus. Fructus ventris generosi. Ici, pour la rime, on n'a pas generosi ventris fructus. On a le nom avant le complément du nom, comme en français. Le fruit d'un ventre généreux. Mais généreux, c'est le terme français. Mais en latin, c'est celui qui vient de la gens, de la pure race, du genre, mais du vrai genre, masculin ou féminin, hein, pas de la noyade en pleine mer, ou en plein océan pour le coup. Generosi, generosus, generosa, geronum, zoom de noble race. Donc, nous pouvons traduire avec facilité en sifflant Pange lingua gloriosi mis corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi precium fructus ventris generosi rex effudit gentium. Ce qui fait dans l'ordre des mots français Pange lingua mysterium corporis gloriosi sanguinisque preciosi quem rex gentium, fructus generosi ventris, effudit impressum mundi. C'est intéressant, le travail qu'elle a fait.
Fruit de nobles entrailles.
Mais j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas fait pour la deuxième, le deuxième verset. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et immundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine.
Il y a une rime aussi, pareil.
Nobis, ici, c'est du datif. Vous voyez. Donné, datus, c'est le participe passé, en fait. Hein. Datus nobis, donné à nous. Natus nobis, donné, né pour nous. Ex intacta virgine, ex plus ablatif, complément circonstanciel de lieu figuré.
D'une vierge sans tache.
À partir d'une vierge intacte.
Est-ce qu'on aurait pu mettre immaculata aussi?
Oui, bien sûr.
Pareil aussi, oui.
Et in mundo conversatus. Et conversatus, c'est ayant été tourné vers avec nous. Donc, la conversation, c'est être tourné ensemble l'un vers l'autre et parler. Ici, que Dieu soit en conversation avec les hommes, c'est qu'il est présent au milieu des hommes. In mundo conversatus, c'est... ayant, là, ils traduisent de manière ornée ayant séjourné dans le monde. Vous voyez ? Sparso verbi seminé.
La semence de la parole.
C'est un ablatif absolu ?
Tout à fait. Alors ici, c'est un peu compliqué. Sparsus, ça vient du verbe sparso. Je pense que c'est sparsas, sparsare, mais j'en suis pas sûr. C'est répandre, voyez, semer. Sparso, ici, c'est de l'ablatif singulier. Ou semen, semini, c'est du neutre. C'est de l'ablatif neutre singulier, sparso, comme templo. Alors, quel est le sujet ayant été répandu? Eh bien, c'est séminé.
La semence.
Semen seminis, la semence. La semence ayant été répandue. Et verbi, c'est quoi? Eh bien, c'est verbum verbi.
La semence de la parole.
La parole. Verbum, verbum, verbum. Verbi, verbo, verbo. Verba, verba, verba. Verborum, verbis, verbis. Verba volant ou volent. Volant, scripta, manent. Et là, ici, verba, c'est les paroles s'envolent et les écrits restent. Sparso verbi séminé. La semence ayant été du verbe ayant été répandue. Sui moras incolatus. Incolatus, ici, ça veut dire. Comment dire? Ça veut dire étranger, hein, normalement. C'est celui qui n'est pas auprès de nous, l'incolatus.
Le rémicole, c'était l'habitant du pays.
Ici, incolatus, c'est résidence en pays étranger. Donc. Ici, incolatus, c'est étranger. Moras, c'est admirable. Moras, ici, mon Dieu. Moras, c'est rester, c'est ça?
Mors moré. Délai retard.
Ah, délai retard.
Pensez au français moratoire.
Oh là là, oui. Oui. Alors là, je me trompe complètement. C'est mors moré, délai retard. Le pluriel moré signifie à peu près la même chose. Ici, le cours du temps. C'est rare hein, comme mot. Hein. Parce que c'est très particulier que ça soit la première déclinaison ait son nominatif en ORS. Hein. C'est très très spécial. Mors moré, c'est le retard.
Ah oui, ça a donné moratoire.
Moratoire. Moras, ici, c'est.
Moras.
C'est de. Accusatif pluriel. Hein. Sui, ici. Nous reconnaissons le possessif de la troisième personne, utilisable seulement lorsque le possesseur concerné est sujet du verbe de la proposition principale. Alors là, je... Clausit ordine, miro, moras, sui, incolatus. Les deux derniers vers de cette strophe illustrent parfaitement la construction que certains professeurs dénomment la petite boîte. Il s'agit d'enfermer le mot complété, nom ou verbe, entre les deux éléments du complément, nom et adjectif qui s'y rapportent. Pour construire la traduction de nos deux vers, il faut de plus les inverser, ce qui nous donne il enferma clausit il enferma ordine miro par un ordre admirable. Moras, le cours du temps, le temps qu'il a passé, voyez, le délai qu'il a passé, sui, ici, c'est impressionnant.
Le temps de son exil.
Oui, mais sui, ici, c'est un possessif. C'est au génitif.
Elle a traduit par le cours de son exil.
Oui, mais sui, c'est moras, c'est les délais, c'est l'accusatif pluriel, les délais de lui. Oui. C'est un possessif au génitif, sui. Il acheva par un rite admirable le cours de son exil. Il ferma, en quelque sorte, par un ordre admirable, par un rite admirable, les temps, les délais, et incolatus, résidence en pays étranger, ici, incolatus, il ne faut pas le prendre comme un génitif, comme un nominatif. Il faut le prendre comme un génitif. Pourquoi ? Parce qu'incolatus, incolatus, c'est un faux ami, c'est la quatrième déclinaison. Il clôtura, par un ordre admirable, les délais de son exil. Incolatus sui. Sui a rapport avec incolatus et non pas avec moras. Eh bien, ça, c'est du latin. Clausit ordine, miro, par un ordre admirable, ablatif, ablatif, ordo ordinis masculin, singulier, moras, incolatus sui. Les temps, les délais de son exil par rapport à sa vie divine et sa vie dans le ciel. Vous avez compris maintenant ? Clausit ordine miro, moras sui incolatus. Mais imaginez un peu, quand vous lisez la poésie latine de saint Thomas d'Aquin, sui moras incolatus. Donc c'est, l'ordre des mots est complètement. Miro clausit ordine. Le verbe est entre les deux pour faire une rime avec séminer.
On comprend pourquoi nos contemporains ont peur de moras.
Voilà, et de latin. Et du latin. Et... Alors, exposé grammatical de la leçon 15. Ces deux premières strophes du Pangelingua vont nous donner l'occasion de compléter l'étude de la conjugaison des modes personnels. Quand nous consultons le dictionnaire, nous y trouvons pour chaque verbe 5 formes. Prenons par exemple le verbe aimer, qui figure en latin comme en français dans toutes les grammaires, et que le latin liturgique utilise aussi largement. Le lexique donne les formes amo, amas, amare, amavi, amatum. Les trois premières formes correspondent aux deux premières personnes à l'indicatif et à l'infinitif. Ces trois formes déterminent la conjugaison d'un verbe, o, as, are, c'est-à-dire la première ici.
Oui.
La quatrième forme est celle du parfait, c'est le passé simple, le parfait. On utilise de nos jours rarement le mot parfait pour un temps passé en français, dont le radical permet de conjuguer toute la série du même nom, à ma vie. Et si vous regardez le tableau que j'ai fait, vous avez les terminaisons des verbes latins au parfait. Au milieu, la colonne du milieu du premier tableau. I,
isti,
it, imus, istis, erunt ou ere.